Bien, bonjour à tous. Difficile parfois de trouver un sujet de message quand on est plutôt sollicité que qu'ayant préparé. Et voilà, l'écoute aussi de l'esprit et de ce qu'on entend permet aussi d'avancer et puis de se poser des questions et puis de découvrir aussi des passages de la parole. Alors, je vais vous proposer un long passage qui est très connu dans un livre qui est pas très médité parce que pas complètement reconnu parfois dans le canon des Écritures qui est l'Apocalypse. Je vous propose de regarder les chapitres 2 et 3 qui sont les épîtres aux sept églises dans l'Apocalypse. Alors, ce que je disais sur l'Apocalypse, c'est ancien, hein, mais bon, même à la Réforme, certains ont un peu douté de la place de l'Apocalypse dans le canon des Écritures. Et on voit tellement pourtant de parallèles, de choses qui corroborent le reste de la parole de l'Ancien Testament jusque dans les évangiles, qu'on se dit que ce livre-là, c'est presque un résumé, parfois, de la parole. Et en même temps, ça nous projette vers des temps futurs. Alors, il y a plusieurs interprétations de ces passages de l'Apocalypse. On peut y voir une histoire d'Israël, une histoire de l'Église, une mise en parallèle des deux. On peut voir aussi des parallèles extraordinaires avec les paraboles que l'on trouve dans les évangiles, avec des applications pratiquement. Il y a plusieurs paraboles à chaque lettre qu'on peut retrouver. Il y a des expressions même qui sont semblables. On peut y voir une évolution de l'Église dans le temps, ce qu'on a beaucoup fait à un moment, c'est-à-dire des successions d'étapes qui, pour certaines, sont concomitantes à la fin. On peut y voir aussi des aspects de la vie chrétienne, il y a notamment sept aspects principaux de la vie chrétienne. Et puis on a aussi des parallèles assez intéressants avec la réalité physique de chaque ville à laquelle est envoyée ces lettres-là. Et c'est pas du tout là-dessus que je vais évoquer. On ne va pas parler de ça. Juste pour vous dire une petite chose. Dans les parallèles, c'est intéressant d'aller voir l'histoire des églises. Et vous avez par exemple Laodicée, à qui il est dit qu'elle se croit riche et qu'elle est pauvre, elle ne sait pas qu'elle est pauvre, et puis d'acheter un collier pour ses yeux. Mais on va retrouver ça dans toutes les lettres. Hein. Mais Laodicée, spécialement à cette époque, à l'époque du Seigneur, était spécialiste des colliers pour les yeux. C'était sa spécialité et c'était devenu une ville très riche avec ça. Et là, il y a aussi tout un tas de réflexions un peu avec humour, parce que Dieu a parfois de l'humour aussi, pour dire à Laodicée, achète du collier pour tes yeux, alors qu'ils en fabriquent. Laodicée se croyait, était très riche, au point que dans les début des années 2017, vraiment au tout début de l'ère, Laodicée est quasiment entièrement détruite par un tremblement de terre. Et c'est sous domination romaine, et Rome propose de payer la reconstruction de la ville. Et les potentats de la ville disent non, on n'a pas besoin de votre argent, on est suffisamment riche pour reconstruire nous-mêmes notre ville. Donc c'était vraiment, il y a des parallèles assez intéressants, on va retrouver ça dans les sept lettres aux églises, des parallèles avec ce que vivent vraiment, à ce moment-là, les villes. Ce qui m'autorise à faire un focus sur ce que ça nous dit personnellement, chacune de ces lettres, qu'est-ce que ça nous dit en termes d'instruction, et je vais parler de trois points à chaque fois, on va voir sur chaque église, comment Christ se présente, quelle instruction et quelle promesse on a dans ces lettres. Et ça, à titre individuel. Et je suis autorisé aussi à le faire parce que, même si c'est des lettres aux églises, il y a un grand mélange sur tout le texte, et on va le lire, hein, un grand mélange entre le nous et le je, l'individuel et le collectif. Beaucoup, très souvent, dans ces lettres-là, les choses se mélangent un peu. On ne sait plus bien si ça parle à une collectivité ou à une personne. Et en plus, l'incise, vous vous souvenez de chaque lettre, c'est « à l'ange qui est à l'assemblée, à l'église, à tel endroit ». Alors, on ne comprend pas forcément très facilement, mais dans la version d'Arby, et c'est l'exception, le terme « ange hein, », c'est un messager. C'est donc le messager. Ça fait peut-être référence à quelqu'un qui était, aux personnes qui étaient en responsabilité dans les églises, à mettre en parallèle avec ce qui se pratiquait dans les synagogues autrefois. Mais ça fait aussi par penser à chacun d'entre nous, parce que chacun, nous recevons des choses et nous sommes messagers dans l'Église. Et donc c'est à la fois peut-être aux personnes qui sont en responsabilité, mais aussi à chacun, parce que chacun va être en responsabilité de transmettre un message reçu par le Seigneur. Dans l'Église, nous avons tous un rôle pour transmettre ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Avant de lire tout ce passage, qui va être un peu long, mais je vous propose qu'on le partage. Donc je vais lire l'introduction, et puis quelques-uns vont lire chacun une lettre à une église. Flo, à qui j'en ai parlé, est d'accord pour commencer, donc après vous enchaînerez. Après l'introduction. Mais d'abord, je voudrais qu'on prie pour que le Seigneur nous ouvre sa parole. Seigneur, tu nous vois maintenant à ouvrir ta parole, ouvrir ce que tu veux nous dire, écouter et ouvre nos oreilles et nos cœurs, que ce que nous entendions, nous puissions le mettre à ton service, que ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous, nous puissions aussi le transmettre autour de nous, l'utiliser pour l'avancement de ton royaume et pour ta gloire. Amen. Donc on commence la lecture, et je commence avec qui peut être un peu une introduction à ces lettres, au chapitre 1 de l'Apocalypse, au verset 17. « Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et les sept lampes d'or, les sept étoiles sont les anges des sept assemblées et les sept lampes sont sept assemblées.
À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit : voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience. Et tu as supporté les afflictions pour mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Et repens-toi. Et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et à l'assemblée, et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit.
Peut-être suivant. Quelqu'un d'autre ?
Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort.
Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
D'autres.
Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du mérin ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta confiance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Quelqu'un d'autre pour Sardes?
Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Reflète-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et reviens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu pars à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses enfants. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour retrouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira pas, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Dernier.
Et à l'ange. Et à l'ange qui est à Laodicée écrit, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui, et lui avec moi. Que celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Merci. C'est intéressant hein, de faire toute cette lecture. Pour voir les rythmes, les répétitions d'expressions qui sont données. Et donc, on va les prendre un peu dans l'ordre. Juste quelque chose que je n'ai pas mentionné, hein, ces sept églises sont des villes relativement regroupées dans l'actuelle Turquie de l'Ouest, hein, la partie Turquie occidentale qui est face à la mer Égée et en face de la Grèce. Et ça dessine un V inversé à peu près si on les prend dans l'ordre de ces épîtres-là. Du coup, c'est quand même des gens qui se connaissaient, qui sont à côté, et l'image que donne le Seigneur où il marche entre les églises, voilà, comme s'il y avait ce lien-là, et il y a eu un topo qui a été fait à un moment donné sur, j'oublie son nom juste. Je vous dirai à l'occasion, sur le fait que le Seigneur est le lien entre toutes les églises. Il marche entre chaque église. Ce qui est, il mentionne au chapitre 2, au verset 1, hein, celui qui a les sept étoiles dans sa droite et qui marche au milieu des sept lampes d'or. Alors d'abord, Christ à Éphèse se présente comme ça, comme étant ayant autorité à la fois sur les lampes et à la fois sur les étoiles. Et donc, ça c'est important, c'est qu'on commence avec ça, il est le chef de l'Église. Et il est le chef de toutes les églises auxquelles il va écrire, et toutes les églises qui sont aussi en image de par le monde. Et il est la lumière. C'est lui qui apporte la lumière, c'est lui qui donne cette brillance à nos églises et à notre propre témoignage. Et notre responsabilité, c'est de refléter sa lumière. Notre responsabilité là, c'est de briller, c'est notre mission de refléter sa lumière. Et quand on n'est pas conséquent dans sa pratique, dans son vécu, on ne reflète pas sa lumière. Et le Seigneur nous dit « J'ôterai la lampe ». Est-ce que on perd pas son salut, mais on peut briller beaucoup moins? Et le Seigneur dit ça à Éphèse. Attention, tu as oublié ton premier amour et tu es en train de pâlir, ta lumière pâlit parce que tu reflètes plus ma lumière à moi. Et donc, on a à faire attention à la façon dont on vit. Et la promesse qu'il y a à la fin de faite à Éphèse, je lui donnerai de manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Et donc, l'impératif pour nous de retrouver, de garder ce premier amour, c'est aussi d'avoir les yeux fixés sur ce paradis de Dieu où nous serons. D'avoir cette vision que notre passage sur la terre n'est qu'un passage, et que nous sommes destinés à quelque chose de grand. Si nous réalisons que nous sommes destinés à quelque chose de grand, alors cette lumière, elle va briller. Parce que nous sommes déjà dans le futur. Et ça va revenir à d'autres églises, cette notion de regarder à notre état futur. C'est aussi une invitation à se sentir vraiment vivant. J'aime bien cette expression. Je lui donnerai de manger de l'arbre de vie. Pourquoi cette mention de l'arbre de vie là ? Oui, c'est la vie pour l'éternité, je l'ai dit, mais ça aussi, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de quoi vivre vraiment. Et être vraiment vivant, c'est être vivant par Christ. C'est rayonner, c'est être la lumière de Christ. C'est nous nourrir aussi de la parole, mais ça, il y a un message qui est un peu plus précis pour une autre église. Je serai assez rapide sur chacun, parce qu'on a 7 églises et que le temps avance. Je vais essayer de ne pas trop délayer. Smyrne, on pense que c'est à peu près Izmir actuellement. Hein. Comment Christ se présente à Smyrne ? À Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui est ressuscité. Tout à l'heure, il se présente aussi comme le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. On a vraiment cette constance de Christ, cette présence depuis d'éternité en éternité jusque dans l'éternité future. Christ est avant, après, plus tard. Il est immanent maintenant et pour l'éternité. En dehors du temps, d'ailleurs. Il y a quelque chose dans l'Apocalypse sur le chapitre 10 qui laisse le temps disparaître. Et c'est en dehors du temps. Christ est là, immanent. Et à Smyrne, qu'est-ce qu'il est annoncé ? Il est annoncé des souffrances. Et nous en aurons, des souffrances dans nos vies. L'Évangile de s'engager pour Christ ne promet pas une vie sans difficulté, sans souffrance. La vie uniquement belle et géniale. C'est pas ça que Christ promet. Hein. Et à tous ses disciples, pratiquement, il a promis une fin douloureuse, difficile. Et même à Pierre, qu'il dit « Tu sais que je t'aime. » Il dit « À la fin de ta vie, quelqu'un te mènera là où tu ne veux pas. » Et on sait comment il a fini. Le Seigneur a jamais promis une vie sur terre qui soit facile, qui soit sans aucune difficulté. Mais ce qu'il nous dit, c'est que je suis là au commencement, je suis là à la fin, je garderai ton entrée et ta sortie dans le psaume. Il est là constamment. Et même dans nos souffrances, il connaît l'issue. Et il sera à l'issue aussi. Sa constance, sa présence constante, c'est ça qui est dit à Sardes, et c'est ça que je fais dans ma vie. Et c'est la promesse, c'est ce que je reçois de sa part, qu'il est toujours avec nous. Fin de l'évangile de Matthieu. Il est toujours avec nous, et il était avant, et il le sera après, et il le sera, et on sera dans l'éternité avec lui. Quelle est la promesse à Sardes ? De supporter ces souffrances, qui vont être difficiles, mais avec la présence de Christ, la promesse c'est que d'éviter quelque chose de bien pire que les souffrances actuelles, c'est la seconde mort. Qu'est-ce que c'est cette seconde mort ? C'est de ne pas être avec Christ pour l'éternité. Et donc la promesse, c'est « tu seras avec moi ». Ça sera dit plus clairement à une autre église aussi. Mais « tu seras avec moi », c'est éviter le pire qui est la seconde mort. L'apôtre Paul dit que les souffrances actuelles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Et du coup, c'est ça qu'on comprend à Sardes. Il va y avoir la souffrance, il va y avoir des difficultés, mais je suis là. Et à la fin, je serai encore là. Et le sacrifice du Seigneur nous assure que, effectivement, nous sommes à l'abri de la seconde mort. Pergame. Qu'est-ce qu'il dit à Pergame ? Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est quoi cette épée aiguë à deux tranchants ? Qu'on retrouve, hein, bien sûr, dans la parole et dans les épîtres. Alors, c'est la parole de Dieu, notamment. Hein ? C'est toujours. Alors, cette épée aiguë à deux tranchants, il y a beaucoup d'interprétations. Petit, je me suis toujours imaginé, et je pense que ce n'est pas complètement faux. C'est une épée qui n'a pas de poignet. Moi, je la voyais comme ça. Alors, à deux tranchants, c'est juste une épée qui est donc dont la lame est tranchante des deux côtés. Mais c'est aussi, moi, j'ai toujours pensé que c'était une épée qui n'a pas de poignet. Quand on la prend, ça fait mal, hein. Parce que surtout si on veut attaquer. Du coup, ça interdit d'attaquer. C'est juste qu'il faut la prendre avec douceur et s'en servir avec douceur. Alors, je ne suis pas sûr que l'interprétation, le texte soit exactement ça. Mais moi, j'aime bien ça. Et ça ne contredit pas ce que nous dit le reste de la parole. C'est une épée à deux tranchants qui sonde mon cœur, qui me fait mal à moi avant de, éventuellement, mettre en cause mon frère ou ma sœur. Elle m'interroge à moi avant d'interroger mon frère ou ma sœur. Et pour ceux qui s'expriment dans l'Église, comme je le fais là, et pour tous ceux qui font ça, quand on lit la parole en particulier devant du monde et qu'on essaye de transmettre quelque chose, soyez sûrs que notre cœur est touché avant le vôtre. Et au moins aussi fortement souvent. Alors, ce qui est demandé à Pergame, c'est de tenir ferme. Tenir ferme la parole pour être des témoins fidèles. Et c'est difficile parfois de tenir ferme la parole. Et on voit que dans nos sociétés, il y a même des... On l'a déjà dit, hein, mais il y a des passages de la parole de Dieu qui deviennent interdits. Parce qu'ils contredisent la loi et l'environnement sociétal qu'on veut nous imposer. Tenir ferme, c'est pas facile. Et quand je dis tenir ferme, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, c'est avec douceur. Donc tenir ferme une ligne qui va à l'encontre de la société, en même temps qu'on le fait avec douceur, parce qu'elle nous touche à nous aussi, c'est compliqué. C'est difficile. Cette ligne de crête est difficile. Et la promesse qu'il y a faite à Pergame, c'est que nous serons nourris de la vraie nourriture. Je te donnerai la manne cachée. Au verset 17, je te donnerai la manne cachée. Et ça nous rappelle cette mention de l'Évangile, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors oui, cette manne cachée, ça nous avons à nous en nourrir, à l'utiliser. Et Christ est cette épée à double tranchant que nous avons à utiliser avec attention et d'abord pour nous. Et dans le futur, nous aurons cette parole avec nous. Début de l'évangile de Jean, le Seigneur se présente comme la parole. Le Seigneur est présenté comme étant la parole auprès de Dieu. Et c'est cette parole-là avec qui nous passerons l'éternité. J'avance un peu, Thyatire. Alors, à Thyatire, le Seigneur se présente. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Ce Seigneur dont nous sommes souvenus tout à l'heure, nous sommes souvenus de lui sur la croix, se laissant faire, bafoué, frappé, flagellé. C'est celui qui a des yeux comme des flammes de feu et qui a des pieds d'airain brillants. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Justice, puissance, gloire. C'est notre Seigneur. C'est ça, ses attributs à lui. Et même si ce qui rend encore plus touchant, et Denis, dans sa première prière, avait évoqué ça, hein, cet abaissement, cet intérêt pour venir sur la terre, cette incarnation dans un corps de tout petit, limité, que le Seigneur accepte quand il vient sur la terre, c'est en fait, c'est ce grand Dieu sauveur, ce grand Dieu qui a des yeux, qui a des flammes de feu dans ses yeux, qui a des pieds d'airain brillants, c'est celui-ci qui est venu nous voir. Alors, à Thyatire, que le Seigneur se présente comme celui qui a des flammes de feu, et c'est le feu, hein, ça éprouve. Le feu, ça fait la différence entre ce qui va cramer et ce qui va rester, hein, l'or et les scories. Et le Seigneur, à Thyatire, il va demander ça. Il va demander d'éviter les mélanges, d'éviter faire de sa vie ce qu'on s'arrange avec les choses. Et il y a, si vous remarquez en particulier à Thyatire, les instructions sont à la fois individuelles et collectives. Et on ne sait pas toujours bien si c'est collectif ou c'est individuel. Et il me semble que c'est une invitation à avoir effectivement un certain libre arbitre par rapport à la collectivité, mais en même temps une responsabilité de rester ensemble. Et nous, en tant qu'Église, c'est un peu ça. C'est à la fois, comme il est demandé aux chrétiens de Béret, de juger ce qui est dit, de vérifier que ce qui est enseigné dans l'Église, c'est conforme à la parole. Mais à la fois, nous avons aussi à rester ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de faire le tri et de faire la loi parce que nous pensons que la parole dit ça et que ça ne dit pas ça. Donc la ligne de crête, elle est difficile. La ligne de crête, elle est de rester dans un ensemble qui a une même pensée. Et il me semble qu'à Thyatire, on est invité à avoir cette même pensée ensemble. Et la promesse à Thyatire est étonnante quand même. Parce que la promesse, c'est d'avoir autorité sur les nations. L'autorité sur les nations, on l'entend pour l'avenir. Pour le temps où nous sommes invités à gérer des villes, etc., ce qu'on voit par ailleurs dans la parole. Mais il me semble que nous avons une responsabilité aujourd'hui de porter la parole du Seigneur auprès des nations. Et pas forcément autorité au sens réglementaire, légal. Mais ne craignons pas d'avoir une parole d'autorité sur ce que la parole dit et sur ce que le Dieu nous demande d'être et de faire dans la société. Et il me semble qu'en ce moment, en particulier, on a la responsabilité de dire la suprématie, la gloire de Christ, la puissance de la parole de Dieu, et de l'annoncer avec autorité, dans le sens avec assurance qu'on dispose de la parole de Dieu, et de dire ce que la parole de Dieu dit, notamment à nos sociétés occidentales en particulier. Maintenant, quand on dit quelque chose avec autorité, si on fait autre chose, ou si notre attitude dit le contraire, notre autorité est nulle. Donc la nécessité pour avoir une parole d'autorité, c'est d'être aussi cohérent dans ce que nous vivons et dans ce que nous disons. Et j'ai souvent dit ici, hein, ce que nous disons, ce que nous sommes, plutôt, parle plus fort que ce que nous disons. Donc du coup, c'est un appel aussi à une grande cohérence. Une cohérence à la fois individuelle et une cohérence aussi collective dans notre vie d'Église, ici à Antony, aujourd'hui. Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. À Sardes, le Seigneur se présente comme ayant les sept étoiles dans sa main. Il a les sept esprits de Dieu. Il est l'essence et la tête de l'Église. C'est lui qui maîtrise. C'est lui qui est le chef du corps. C'est lui qui est la tête de toutes les églises. Et quand je dis l'Église, c'est toutes les églises. Et les différenciations, pour ne pas dire les divisions que nous avons dans le monde de la chrétienté, n'empêche pas qu'il y a une seule tête. Et ça, il faut que l'on le réalise pleinement, que tous nous sommes soumis, et nous faisons partie du même corps, et nous sommes soumis à la même autorité, qui est le Seigneur lui-même. Et cette unité de l'Église, c'est pas anodin, que le verset 2 qui est mentionné dans le chapitre 3, donc verset 2 adressé à Sardes, « Sois vigilant et affermis ce qui reste et qui s'en va mourir. » C'est la révélation qu'a eue frère André pour lancer Portes ouvertes. C'est sur ce verset que frère André s'est dit « Il faut que j'aille affermir ce qui reste dans les pays qui sont où l'Église est persécutée. » Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette révélation qu'il a eue, c'est aussi ce que nous dit le texte, une seule Église. Et si un membre souffre, tous souffrent à d'autres endroits. Et il a réalisé qu'il ne pouvait pas être Église sans, comme ça, tranquillose dans son coin, pendant que d'autres se faisaient oxyre ou persécuter. Et donc il lui fallait qu'il aille aider. Et donc l'organisation Portes Ouvertes, elle a démarré avec ça. Réaliser que nous sommes une seule Église. Réaliser que tous, autant que nous sommes, quelles que soient les cultures, les dénominations, les endroits où nous sommes, quel que soit ce que nous vivons, nous sommes une seule Église avec une seule tête. Et donc nous avons cette responsabilité d'être des veilleurs et de ne pas être endormis dans une certaine facilité que l'on a dans nos pays occidentaux. Je l'ai peut-être déjà dit, vous savez comment nous appelle l'Église égyptienne qui est en partie persécutée. Aujourd'hui, elle nous appelle l'Église endormie. Et oui, dans des pays, en particulier les pays du monde musulman, l'Église est persécutée. Nous sommes l'Église persécutée, mais vous êtes l'Église endormie, c'est ce qu'ils nous disent. Ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas tout à fait faux. À nous de nous réveiller et d'être veilleurs. J'avance et on arrive à Philadelphie. Alors comment se présente le Seigneur à Philadelphie? Voilà ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Philadelphie, c'est étonnant, quelles sont ces clés de David qu'il a. On peut comprendre les clés de la maison de David. Et il dit à Philadelphie, je mets devant toi une porte ouverte et que nul ne fermera. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut éventuellement comprendre là-dedans. Et je sortirai un peu des sentiers battus d'interprétation que j'ai entendu depuis longtemps. Il me semble que nous avons une porte ouverte constamment quand nous aimons le Seigneur pour porter la parole du salut. Il me semble que nous avons à porter la parole du salut partout autour de nous, que c'est la mission que nous avons. Je dirais pas d'être évangéliste parce que ça renvoie à des personnes qui auraient forcément cette mission à plein temps, etc. Mais nous avons tous autour de nous les portes ouvertes pour porter le message du salut auprès de nous, de ceux qui nous entourent. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà. Pas forcément soit un évangéliste, au sens où il faudrait être à plein temps pour faire ça. Non, non. Mais chacun, nous avons à faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire juste inviter à accepter le salut de Christ, à accepter la croix de Christ comme étant source ou moyen unique de notre salut. Et ça, nous avons à le faire, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes. Et c'est comme ça que je comprends que Christ tient la clé de la maison de David, c'est-à-dire de cette lignée de personnes qui vont être en image, cette lignée de personnes qui vont être avec lui et qui vont devenir ses frères et sœurs. Il est fils de David, il tient la clé de la maison de David. Nous sommes entrés par grâce dans la lignée de David en étant ses frères et sœurs. Si on est frères et sœurs, alors on est aussi dans la maison de David. Donc, moi, j'entends ça comme étant la clé. Est-ce que nous utilisons cette possibilité d'ouverture? Est-ce que nous ne prenons pas la responsabilité de fermer les portes qui sont ouvertes par Christ? Est-ce que nous ne nous interdisons pas de parler à un tel ou un tel? Soit par peur de nous, soit parce que, bon, il n'écoutera rien. Est-ce qu'on ne prend pas cette responsabilité de ne pas parler à ceux qui ne nous semblent pas dignes, qui sont des fautifs au niveau de la société, qui sont des parias parfois, ou qui eux-mêmes se mettent en marge de la société? Est-ce que parfois nous ne fermons pas les portes que Christ a voulu ouvrir? Et pourtant, la promesse qui est faite par le Seigneur, c'est « Il ne sortira plus jamais dehors, et j'écrirai sur lui le nom de Dieu. » Est-ce que nous portons le nom de Dieu? Est-ce que nous avons envie de ça, que le Seigneur écrive sur nous le nom de Dieu? Parce que quand c'est écrit sur nous, ça se voit, hein? Est-ce que nous avons cette envie-là? Que Christ nous reconnaisse, nous fasse reconnaître comme étant enfants de Dieu. Que nous soyons à la fois reconnus, mais aussi responsables de notre tenue, de ce que nous faisons, parce que nous avons sur nous, nous portons le nom de Dieu. Vous savez, dans les entreprises, quand vous arborez le logo de la boîte et que vous faites pique-pendre, vous pouvez vous retrouver attaqué. Pour avoir sali l'image de l'entreprise. Malheureusement, parfois, on n'est pas très conséquent avec le nom de Dieu que nous voulons porter. Je passe à Laodicée. Laodicée, le Seigneur se présente. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Alors, un mot là-dessus, le Seigneur se présente comme l'Amen. J'avais déjà dit un mot là-dessus. Amen, c'est un des noms du Seigneur. C'est un des rares mots, sinon, il faudrait vérifier, mais le seul mot qui n'est pas traduit, qui est le mot hébreu, qui n'a jamais été traduit, et qui est à peu près le même dans à peu près toutes les langues, avec les prononciations différentes pour les Américains ou des choses comme ça, mais c'est à peu près le même nom. Juste pour dire que ce mot « Amen », il n'est pas anodin quand on le prend dans notre bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on a l'habitude de dire que il veut dire « ainsi soit-il ». Quand on regarde la succession, et notamment l'apparition du « Amen », tout à fait dans la première mention du « Amen » dans le Lévitique, si je ne me trompe pas, ce n'est pas tout à fait ça la signification. Et la signification, elle nous est donnée là. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Et Amen, ça veut dire ça, fidélité, vérité. Ça veut dire que quand on dit Amen à une prière, on dit c'est vrai. C'est la vérité et je crois dans cette vérité. Fidélité, fidesse, foi. Je crois dans cette vérité et c'est la vérité. Donc j'acquiesce quelque part pleinement. Et ça, c'est un nom du Seigneur. Ce qui veut dire plusieurs choses. C'est que quand on prononce l'Amen, c'est vraiment un engagement de soi. C'est pas uniquement je dis Amen parce que c'est la fin de la prière et que l'autre, il a dit Amen à côté de moi. C'est je dis Amen parce que j'ai écouté. Ça, c'est déjà le premier petit point, parce que dire Amen à quelque chose qu'on n'a pas écouté, c'est compliqué. Mais j'ai écouté et je suis d'accord avec ça. Ce qui, d'ailleurs, peut parfois dire... L'Amen est un peu... On ne peut pas être d'accord éventuellement avec quelqu'un. Mais l'Amen, c'est je suis d'accord avec ce qui est dit, j'y crois et c'est la vérité. Et c'est aussi le nom du Seigneur. Ce qui veut dire qu'on ne dit pas Amen impunément. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut dire que des petits amens comme nous on dit, et qu'il est interdit de dire amen au cours d'une prière ou d'avoir des amens retentissants, comme d'autres le pratiquent plus que nous. Ce n'est pas ça. C'est simplement de ne pas prononcer amen de façon inconséquente. C'est-à-dire que c'est un nom du Seigneur et on le proclame à la face des puissances spirituelles, de méchanceté notamment, mais de l'ensemble des puissances spirituelles, on proclame le nom du Seigneur. Amen. Et quand on prononce ce nom, on a à avoir la conscience de la gloire de Christ, la gloire du nom qu'on prononce. Alors à la Odyssée, il est reproché d'être ni froid ni bouillant. Et nous, on a à ne pas être endormi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est appelé par l'Église persécutée, mais être actif. Être actif, être bouillant pour Christ. Ça ne dit pas que ça va être hyper simple. Hein. On a au verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et donc du zèle. Ça ne veut pas dire que notre vie, parce qu'on va être des évangélistes super engagés et même puissants peut-être dans la parole, ça ne veut pas dire que tout va rouler et tout va être facile. Et Christ nous dit, mais tu as besoin aussi de passer un peu, d'enlever encore les scories. Et même si tu me sers, je vais encore avoir des scories à enlever. L'épreuve de Job est là pour nous rappeler qu'il était juste. Et pourtant, il passe par des difficultés. Mais pour réaliser encore plus qui est Dieu, qui il est dans sa bonté, sa grandeur et sa grâce. Et nous vivrons ça aussi, nous aussi. Et la promesse, c'est laquelle ? Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme aussi moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc voilà notre promesse, d'être toujours avec Christ. D'être dans la gloire, d'être à côté de Christ. Et nous serons toujours à ses côtés. C'est la promesse que l'on a à la fin de ces lettres qui sont faites aux églises. Et juste avant, je reviens bien sûr sur ce verset 20 du chapitre 3, où « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Parce que si le Seigneur, nous, comme on l'a dit déjà, ne nous promet pas une vie simple, tranquille et sans problème ou sans difficulté, voire sans souffrance, il nous dit « Mais je veux être avec toi. » Je veux être avec toi, je veux avoir ces échanges avec toi, je veux être habité avec toi. À nous aussi d'ouvrir la porte, hein, cette porte que Philadelphie avait ouverte devant elle, et c'est à nous d'ouvrir la porte de nos cœurs et la porte de nos églises, évidemment, puisque c'est quand même une lettre à l'église, la porte de nos cœurs et la porte de l'église à Christ pour qu'il soit avec nous et que nous ayons cette proximité avec lui. En ayant cette certitude que demain, très vite, il nous dit « bientôt ». Alors « bientôt », c'est un mot qu'on retrouve beaucoup. Hein, et ce livre va se finir avec « je viens bientôt ». Le « bientôt », c'est parce qu'on ne sait pas quand c'est. Le « bientôt », c'est tout de suite ou dans plusieurs années encore. Mais nous avons à vivre comme si c'était « bientôt ». Et le « bientôt » à notre échelle, c'est très rapide. Hein. À l'échelle de Dieu, ça peut être beaucoup plus, mais bientôt. Et nous avons cette espérance d'être bientôt avec lui pour toujours. Est-ce qu'on va vivre différemment si très bientôt on est avec Christ ? Est-ce qu'on va changer des choses ou pas dans nos vies ? Est-ce qu'on va continuer à faire tout ce que l'on fait aujourd'hui ou est-ce qu'on va prendre des dispositions ? Juste un petit mot là-dessus. C'est pas une invitation non plus à ne plus rien faire et à rester le Seigneur revient, je fais plus rien. C'est pas ça. C'est juste en tenir compte dans nos choix, en tenir compte dans notre prospective, en tenir compte dans nos invitations, d'avoir cette urgence aussi à inviter les uns et les autres, parce que le Seigneur vient bientôt. Et quand le Seigneur sera venu, il aura fermé la porte. Alors autour de nous, ne perdons pas de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour inviter à avoir encore plus de monde autour du Seigneur, avec nous, sur le trône, pour chanter sa gloire pour l'éternité.